Vous avez partagé la vie de Paul Auster pendant 43 ans. Votre mari est mort le 30 avril 2024. Dans Ghost Stories, vous évoquez votre deuil, mais aussi et surtout le lien charnel, spirituel et professionnel qui vous unissait. Alors comment perpétuer ce dialogue post-mortem pour répondre à cette question? Ans, vous suivez un doctorat de littérature à l'Université Columbia de New York et vous vous rendez à une lecture de poèmes. Là, vous rencontrez Paul Auster, 34 ans à l'époque. J'ai vu un bel homme en blouson de cuir noir, les épaules voûtées, le regard intérieur. Vous l'épousez en 1982. Cette même année, vous publiez Reading to You, un recueil de poèmes, et Paul Auster sort un essai intitulé L'invention de la solitude. Avec Cité de Verre en 85, premier volet de sa trilogie new-yorkaise, il rencontre le succès. Dans ce roman, le personnage principal poursuit une quête d'identité.
Les problèmes d'identité que Quinn rencontre, je crois que c'est possible seulement dans une ville de telle intensité et grandeur.
En 1992, vous publiez le roman Les yeux bandés. Avec Tout ce que j'aimais en 1995, vous accédez à votre tour à la notoriété internationale. Vous écrivez également de nombreux essais inspirés par votre passion pour l'art, la philosophie, les neurosciences ou la psychiatrie. Et vous utilisez vos connaissances pour rédiger des romans comme Souvenirs de l'avenir.
There is no original memory in the brain. Every time we retrieve a memory, it is subject to change.
Pendant toutes ces années en couple, vous écrivez chacun de votre côté, mais vous vous relisez mutuellement.
What's it like for each of you to have the other as first reader?
It's good.
This one is one of the most astute literary minds I've ever encountered.
Aujourd'hui, dans ce livre, vous partagez les lettres échangées tout au long de votre histoire d'amour et vous évoquez aussi votre esprit confus, votre corps en miettes. Page 41, vous précisez « Cette vérité m'est insupportable et pourtant, elle doit être supportée. »
Il n'est pas, impossible que l'expérience Lazare, comme vous l'appelez dans le récit, ce moment où, trois jours après la mort de Paul Auster, vous avez senti de manière incroyablement présente précisément sa présence et l'odeur de son cigare, il n'est pas impossible que ça se reproduise et qu'il le lise derrière votre épaule, le récit.
Well, that was a big question.
C'est une question importante. L'expérience que j'ai faite de la présence de Paul qui s'est déroulée le jour où nous l'avons enterré. J'étais seule dans notre chambre et j'ai fait une expérience au sujet de laquelle j'avais lu à plusieurs reprises sur le fait que des personnes en deuil font l'expérience de la présence de la personne décédée. C'était absolument bouleversant et je dois dire que j'étais emplie de joie. Je l'ai senti qui montait l'escalier, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, il ne m'a pas touchée, mais j'étais sûre à 100% qu'il occupait cet espace de façon invisible, qu'il regardait comment j'allais, et j'étais remplie de joie, et ensuite il est parti. Ça, c'était après qu'il m'ait dit à plusieurs reprises, juste avant de mourir, je veux être un fantôme. Et ce serait très intéressant d'étudier l'effet que ce genre de déclaration peut avoir sur le système nerveux. Et comment on remplit les blancs, en quelque sorte. Je crois que ça se passe.
Chère Yvette, amour fou et grammaire autour de la conjonction de coordination et. Vous revenez beaucoup sur ce « et » Paul et Siri, Siri et Paul, et d'une certaine façon, vous explorez ce déchirement spirituel, intérieur, amoureux, émotionnel, qui consiste à perdre l'un des deux éléments autour du « et ». Siri est, oui, mais Paul n'est plus là. Et c'est ça que vous décrivez dans ce livre remarquable.
This is a subject that I've been interested
oui, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. En philosophie, en psychoanalyse, bien entendu, il y a le « et », la transférence. Quand sur Google, vous voyez le « entre », il y a beaucoup de versions de cela. Cela peut être intersubjectivité aussi, ce que l'on crée entre les deux personnes. Et dans un couple qui vit ensemble pendant longtemps, ce que j'appelle ce « et », cet espace entre, cet entre, devient comme une troisième personne dans la relation. ce n'est pas statique. Cela évolue constamment et c'est ce qui s'est passé pour nous. C'était un entre dynamique. Et ensuite, la personne qui représente l'autre partie de cet entre meurt. Eh bien, la réalité perceptuelle et subjective de l'autre change fondamentalement. Et c'est de cela que j'ai essayé de parler. Je crois que nous vivons dans une culture néolibérale avec l'accent fort sur le moi. Et je pense qu'il n'y a pas assez d'accent mis sur l'entre créatif, cet entre créatif. Et j'ai perdu cela. C'est mort avec Paul. Je peux m'en souvenir, je peux le considérer comme un trésor, mais je ne l'ai plus.
Vous êtes veuve depuis le 30 avril 2024, maintenant presque 2 ans, et vous revendiquez ce statut de veuve parce qu'il vous maintient dans un lien avec Paul Auster. Mais est-ce que ça veut dire que le deuil ne s'arrête jamais, qu'il ne finit jamais ?
Vous savez, après la mort de Paul, j'ai beaucoup lu. J'ai lu sur le deuil, ce qu'on appelle la littérature du deuil. Et il y a une idée qui revenait tout le temps, qu'il faut dépasser, surmonter ce deuil. Mon sentiment est que on change. Et qu'il y a un processus d'adaptation vis-à-vis de la nouvelle réalité. Mais même dans la littérature concernant le deuil aujourd'hui, l'idée est de maintenir le lien. C'est cela qu'ils appellent maintenir le lien. Ce qui veut dire que ce n'est pas un problème de continuer à maintenir une forme de relation avec la personne décédée. Et je crois que c'est quelque chose qui me convient.
Vous évoquez, à propos de Paul Auster, qui est mort à la maison, dans la bibliothèque de votre maison, une bonne mort, quasiment dans le sens socratique du terme. Et les soins palliatifs étaient à la maison, à domicile, et on va en parler avec vous, Cyrus Vett, et avec vous, Anna, puisque en France, nouvelle loi qui a été adoptée la semaine dernière pour l'accompagnement en soins palliatifs.
Oui, et une des mesures phares de cette loi, c'est la création de maisons d'accompagnement. Ce sont des lieux médicalisés qui se veulent plus apaisants que l'hôpital pour les personnes en fin de vie, et où surtout, l'écoute et le bien-être sont aussi importants que le soin. Un projet expérimental doit ouvrir prochainement à Tours, donc en France, avec une unité de vie qui pourra accueillir 12 patients et un cabinet médical. Et dans cette maison, les aidants auront aussi leur place. 4 chambres vont leur être dédiées pour qu'ils puissent accompagner leurs proches jusqu'à la fin. D'ici 10 ans, on estime qu'en France, il y aura une centaine de maisons comme celle-ci. Alors, est-ce que pour vous, personnellement, les soins palliatifs, ça vous a aidé à vous préparer au décès de votre mari?
Et c'était très intéressant du point de vue médical pour moi. Parce que dès l'instant où nous avons su que Paul allait mourir et qu'il ne pourrait plus guérir, nous sommes inscrits dans un centre de soins palliatifs. Et donc ces personnes sont venues à la maison, c'était 2 femmes et elles étaient extraordinaires. Et je dois dire que c'est durant le traitement de Paul, c'était le moment où il a été traité comme un être humain à part entière. Parce que le traitement qu'il avait reçu précédemment avait attaqué d'autres tissus, donc il voyait un médecin, puis un autre médecin, c'était complètement fragmenté. Mais dès que nous avons commencé à suivre les soins palliatifs, c'était en avril, ce dont il s'occupait, c'était l'homme dans son ensemble. Et ça, c'était quelque chose d'incroyable. Et c'est vraiment...
Dor
est en train de mourir. Et pourtant, cet espace, cet intervalle de temps était bon. On a vraiment senti un soulagement. C'est très intéressant.
Une dernière question, Cyrus Vett. On en aurait temps encore. Votre mari, Paul Auster, votre amour, ne supportait pas de nommer Donald Trump, il l'appelait le 45e. Ça concernait le premier mandat, évidemment. Vous avez des mots extrêmement lucides, incroyablement coruscants et sévères sur Trump, son administration qui hait les scientifiques, qui hait les intellectuels et qui a une sorte de tropisme pré-fasciste. C'était aussi le point de vue, j'imagine, de Paul Auster.
Oui, absolument. Nous étions très proches du point de vue politique. De temps en temps, un petit désaccord mineur sur des points mineurs, mais nous pouvions en parler et résoudre ce point. Mais Généralement, nous étions tout à fait d'accord. Et moi, maintenant, j'en parle comme du 47e. Évidemment, ce n'est plus le 45e. Mais nous étions tout à fait d'accord. Il s'agit d'un État proto-fasciste dans lequel nous vivons à l'heure actuelle. Ce n'est pas un État proto-fasciste dans son ensemble, consolidé, mais les souhaits de cette administration sont de poursuivre, de mettre bas la République démocratique. Et donc, il est très important de résister. Il y a un mouvement de résistance aux États-Unis. Je trouve qu'on n'en fait pas beaucoup l'écho dans la presse, mais il est là.
Et vous en faites partie. Merci, Cyrus.
I definitely am.
Absolument, j'en fais partie.
Bien sûr, comme vous l'étiez dans les années 70, sororité. Absolument, car vous êtes une femme engagée. Merci infiniment d'être venue dans 28 minutes.